Bien, et bien sûr, Cathy Sarnay, il est. Ouais, non, je me planque. Il est bientôt 17h et je pense que tout le monde devrait se diriger vers la grande salle de la Maison du Temps Libre pour la deuxième table ronde. Et vous êtes prié d'obéir puisque cette table ronde est consacrée à la désobéissance. Alors je veux tout le monde immédiatement à l'intérieur. Bon, il s'agirait d'obéir un peu là-dedans. La désobéissance. Que celui qui n'a jamais désobéi, je lève la première pierre. Est-ce que tout le monde est rentré ou
Ah, il doit juste à côté encore.
Il y en a encore qui boivent des coups là-bas.
Oui.
Bon, tiens. Est-ce qu'Aquitaine Radio est prête?
Ah oui.
Eh bien, bienvenue donc dans cette deuxième table ronde de cette belle journée d'hommage, de mémoire et de travail aussi. Alors, cette deuxième table ronde se propose de débattre du thème de la désobéissance en temps de guerre, vaste programme, comme dirait l'autre. C'est un thème bien sûr passionnant et terrible à la fois. Pour l'illustrer, on pourra s'appuyer sur l'histoire d'un homme, notamment Aristide de Souza Mendes. Sur l'histoire de l'homme, mais vous voudrez bien sûr dire autre chose, Manuel Diaz-Vaz, pour évoquer le souvenir du diplomate portugais. Vous êtes président du Comité national français en hommage à Aristide Souza Mendes. On va y revenir. À vos côtés, à mes côtés, un universitaire, Philippe Soulot, bonjour. Vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage sur la ligne de démarcation en Gironde. Voilà. C'est un beau travail, c'est un livre d'historien, c'est-à-dire une étude, une étude précise des faits. Ce qui vous amène à citer Fernand Braudel en ouverture. J'aime bien cette citation, ça résume un peu l'esprit de la journée aussi. L'histoire se trouve aujourd'hui devant des responsabilités redoutables, mais aussi exaltantes. L'histoire a besoin de témoins, on l'a vu tout à l'heure, de témoins directs, c'est vous et une veille. Vous aussi, vous avez écrit un livre. En août 39, vous avez 10 ans, vous fuyez l'Alsace. C'est le début d'un long périple qui vous mènera jusqu'à Villeneuve-sur-Lot. C'est écrit sur le livre, vous allez nous raconter, puis surtout vous allez nous dire que c'était la guerre heureuse. Ça, on a adoré ce
livre. Oui, c'est
oui, je vous assure, si je n'avais pas eu peur de choquer, je l'aurais appelé comme ça.
Pour commencer, Philippe Soulot, je voudrais vous poser une question simple, une question de méthode adressée à l'universitaire, la question de la désobéissance. Est-ce que c'est une question pour un historien? Est-ce qu'elle n'est pas trop philosophique? Est-ce qu'elle n'est pas trop, pour reprendre, faire un problème, exaltante?
Alors,
allez-y, mets dans le micro.
Alors, faut-il opposer les mots de résistance, de désobéissance? C'est toujours très très compliqué. La résistance, bon, on peut peut-être se mettre d'accord pour sur une définition à minima, c'est-à-dire une action subversive contre les objectifs de l'occupant. C'est-à-dire qu'on s'est donné comme définition finalement qui, contre qui, quoi. Donc un objectif, un adversaire désigné. La désobéissance, c'est un comportement lui aussi subversif, mais plus spontané. On pourrait peut-être donner comme synonyme opposition, fraude. Disons qu'il est toujours très difficile de distinguer, de différencier les deux mots. D'ailleurs, sont-ils opposables? Je ne le pense pas. Et il ne faut pas tomber non plus dans une définition trop sophistiquée de la résistance, où, dans laquelle nous, on travaille, mais on s'éloigne progressivement du ressenti des contemporains des événements. Donc, véritablement, on va dire que la désobéissance ne participe pas forcément à la résistance, mais y a contribué dans un cas très, très important.
Vous avez dans votre ouvrage fait une différence, le distinguo par exemple, si on parle de l'autre côté, entre collaboration et accommodation. C'est un peu le...
C'est différent.
C'est différent.
C'est différent parce que, on va prendre par exemple quelque chose, un chef d'entreprise, il a plusieurs solutions qui lui sont proposées en 1940 lorsqu'il a les commandes allemandes, soit qu'il les refuse, Et donc, à ce moment-là, son entreprise peut devenir, ben, finalement, peut passer sous domination allemande, et donc il perd le contrôle de l'outil, ou bien il peut répondre à la demande allemande. Est-ce que cela en fait autant pour autant un collaborateur? C'est très très complexe. S'accommoder, ben, c'est tout simplement s'adapter, et une adaptation à la situation. Alors forcément, j'aime bien ce terme d'accommodation, c'est-à-dire s'adapter à une situation où on est obligé de parler peut-être avec l'occupant, hein, si là on est en zone occupée, mais pour autant ne pas répondre à ses objectifs.
Depuis ce matin, on essaye de voir comment on peut désobéir, comment on peut être juste, comment on peut résister, comment ça se passe chez les individus, chez les groupes, comment ça se structure. Dans cet ouvrage sur la ligne de démarcation en Gironde, comment vous définiriez, comment vous traceriez le terrain et la carte aussi avec cette fracture, et quelle fracture est-ce que cette ligne de démarcation représente, en quoi elle a été facteur de désobéissance ou de résistance? Enfin, quel est le contexte, quel est l'état des lieux que vous faites de cette question de la résistance et de la désobéissance?
Alors, 10 ans après, parce que finalement, même 12 ans après...
C'est un ouvrage qui est encore en France, oui.
C'est un ouvrage qui a été publié en 1998, donc après 12 ans, mais je n'ai pas pour autant arrêté mes recherches sur cette question-là. Elles ont même évolué. Est-ce que la ligne de démarcation est une fracture dans le département de la Gironde, dans les 13 départements français qui sont traversés? Eh bien, je ne le crois pas. Il y a 12 ans, je pensais le contraire. Enfin, même mes collègues, hein, je pense notamment à Éric Alary, qui a écrit la thèse sur la ligne de démarcation, avec qui on a travaillé étroitement. La semaine dernière, nous étions en colloque à Tours, à l'université de Tours, et finalement, nous arrivions à une conclusion sensiblement différente. La ligne de démarcation, certes, une gêne dans la géographie d'un département, de 13 départements, dans la géographie du pays, mais la ligne de démarcation n'est pas pour autant, pour un certain nombre de domaines, une fracture, une barrière. Je prends un exemple, c'est celui de l'économie, parce que c'est là aussi un très bon paramètre pour mesurer cela. La ligne de démarcation n'est pas une barrière économique, car on voit dès l'été 1940, les entreprises obtenir des Allemands des autorisations dans le sens zone occupée, zone non occupée, et vice-versa. Et je dirais que c'est même dans l'intérêt allemand, parce qu'il faut toujours voir l'intérêt allemand et l'intérêt de l'occupant ici, parce que les Allemands ne voulaient pas forcément se priver des ressources de la zone non occupée, et donc forcément, il leur fallait utiliser un certain nombre de ressources que la zone occupée, que Bordeaux, par exemple, avait besoin et qui se trouvait en zone non occupée, et vice-versa. Donc, la démarcation n'est pas forcément une fracture au sens ou une barrière, déjà, on va dire, déjà pour tracer le premier cadre. D'autre part, la ligne de démarcation a été une ligne de résistance. Elle a été une ligne de résistance dans, les régions qui l'ont entourée, qui sont frontalières, donc toute cette Gironde du Sud-Est, mais aussi ce Lot-et-Garonne du Nord, qui a été très marqué, très influencé par la ligne de démarcation, une ligne de démarcation qui a généré dès 1940 tout un mouvement de désobéissance. Alors, quand on interviewe les témoins, il y a 15 ans, comme aujourd'hui, tous disent au départ, c'est un jeu, parce que parfois, ils sont même très jeunes, 10 ans, 15 ans, ils pouvaient faire trancher la ligne de démarcation, ils connaissent très bien le terrain, et donc, au départ, c'est un jeu, c'est un défi à l'occupant, sans forcément prendre en considération les dangers, d'abord, parce qu'ils couraient de graves dangers, mais aussi, c'est pas forcément un acte qui était dirigé contre les Allemands, c'est un acte citoyen, une aide, un geste de confiance, de compassion. Et puis, progressivement, ce passage de la ligne de démarcation dès 1941, avec l'afflux notamment des candidats clandestins, va devenir véritablement une organisation. Le passage devient une organisation, et là, on est en train de muter vers une action résistante. On va prendre un exemple, le passage par exemple des Juifs, cette ligne de démarcation, notamment après les trois rafles parisiennes du début de l'été et du mois de décembre 1941. Il y a de plus en plus de familles qui vont donc quitter la région parisienne, qui arrivent en Gironde et dans toutes les régions frontalières de la ligne de démarcation. Et là, on a des filières qui vont être arrêtées plus ou moins spontanées, mais qui vont
s'organiser. Oui, voilà, c'est ça.
Et c'est ce phénomène, ouais, ce passage à l'organisation, ce passage au côté plus coordonné, qui va, on va dire, donner la forme de résistance.
Mm-hmm. Oui, le réseau Will Wright, par exemple, c'est un des exemples. Ça, c'est
Le réseau Will Wright, c'est un autre problème. Will Wright, c'est un réseau du SOI. Donc là, on est plutôt sur une militarisation de la résistance. Donc là, c'est autre chose. On n'est pas du tout dans le passage de la ligne de démarcation, de façon très occasionnelle. Les réseaux, si on connaît le nom de réseau de master, c'est tout simplement à un moment donné où on va voir la résistance quitter les villes, c'est-à-dire le côté propagande, le côté renseignement, et puis on prend en considération une autre dimension, celle, de la lutte armée. Elle s'accompagne par la récupération d'armes. Et puis donc voilà, là, ce réseau, c'est vraiment le signe, là aussi, d'un passage. Là, on est vraiment dans la résistance dès le départ. Dès le départ, c'est une grande victoire qui est au départ, à l'origine, mais là, on est vraiment dans la résistance, simple, il n'y a pas ce moment de désobéissance. Ben, on le voit de toute façon, si on le voit, parce qu'à l'origine, quand on devient résistant, on franchit quelque part le Rubicon, on devient paria, et là, il y a une désobéissance qui, après, va s'accompagner de toute une série d'éléments, parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'ils sont vraiment. Ils deviennent des illégaux, dans le sens où il leur faut des cartes d'identité qui sont fabriquées, il leur faut se nourrir, ils ne peuvent plus avoir cela, ils ne peuvent plus habiter chez eux. Donc c'est tout à fait une autre vie, une vie de paria qui s'organise pour, on va dire, les grands coordinateurs de tous ces réseaux. Après, forcément, la résistance, elle s'appuie aussi sur des aides occasionnelles au quotidien. Sans cela, nous n'avons plus fonctionné. Et là, le milieu rural a joué un rôle fondamental.
Est-ce que vous pourriez faire, je ne sais pas si on va dire en histoire, on utilise le terme, une typologie des résistances, comment elles se sont construites, des désobéissances, qui, pourquoi, comment ça s'est structuré, et à la faveur, si j'ose dire, de quels événements?
Alors, là encore, c'est toujours très compliqué de vouloir faire une typologie, parce que une typologie, ça
signifie... C'est pour ça qu'on a des historiens.
Ouais, ça signifie aussi qu'on veut globaliser, et globaliser des cas généraux, il faut d'abord qu'on puisse s'appuyer sur des cas particuliers. Alors, on va s'appuyer sur un cas particulier qui concerne notre région. On va prendre le cas de Bordeaux. Arriver sur une globalisation un peu trop dangereuse. On prend le cas de Bordeaux. Le cas de Bordeaux est intéressant parce que c'est une ville portuaire qui est occupée par les Allemands. C'est pas donc le cas ici en Haute-Garonne. On n'a pas les mêmes mouvements des obéissances au départ. Donc on a une ville, deuxième ville de zone occupée, première ville si on voit ça différemment derrière Paris. Donc deuxième ville de zone occupée, premièrement. Deuxièmement, forte occupation allemande. Et donc, quel type de résistance cela va générer? Il y a une résistance du renseignement. Parce que la présence de l'occupant fait que les Britanniques vont être intéressés par toute une série d'éléments. Pourquoi? Parce que l'occupant italien et allemand à Bordeaux construit une base marine, et ce dès septembre 40, c'est la base marine italienne, la Bétassone. Puis, à partir de septembre, octobre 42, c'est une base sous-marine, celle qu'on connaît encore sur le bassin numéro 2. Donc là, c'est intéressant. On a aussi toute une série de sous-marins, on a toute une série de bateaux. On a quand même encore aujourd'hui, même si ça diminue après les travaux du TRAB, près de 400 bunkers qui vont être construits dans Bordeaux. Vous avez pratiquement encore les encore certains qui sont aujourd'hui, qui existent toujours, je pense notamment ceux qui sont sur la place des Quinconces, notamment il y en a un qui est au pied des colonnes rostrales. Donc ça c'est assez intéressant, quand il a tout le commandement militaire du golfe de Gascogne, donc ça c'est quand même le point de vue militaire intéressant. Donc il y a toute une série de réseaux qui vont se mettre en place, c'est le renseignement, et des renseignements qui partent donc à Londres. Donc ben là par exemple, le réseau OneRide, c'est à ce niveau-là qui va commencer déjà à naître parce qu'il va falloir transmettre après les renseignements du côté de Londres. Et c'est ainsi, en conséquence, qu'on va avoir les premiers bombardements. Les premiers bombardements, ils ne sont pas faits qu'à la beuglette, ils le sont faits plus ou moins sur le moment, mais ils sont générés au départ par cette activité du renseignement. Donc, c'est vrai que ce n'est pas une résistance qui est très connue, ce n'est pas une résistance qui est, on va dire, qui fait appel aux armes, aux grands coups d'éclat. Donc forcément, la mémoire est plus discrète derrière, c'est-à-dire qu'après la guerre, il y a moins de plaques, il y a moins de monuments, il y a moins de manifestations. Ce n'est pas une résistance qui a généré une importante mémoire. Et donc, moins connue, mais c'est vraiment la première forme de résistance dans les villes, dans le monde de urbain, et puis parallèlement il y a une autre résistance dans le milieu urbain, c'est la propagande. Alors la propagande communiste, entre autres, qui est très importante, la propagande également gaulliste, bon, on la retrouve là par contre en Lot-et-Garonne, hein, là c'est quelque chose qui est récurrent dans toutes les villes, que ce soit zone occupée ou zone non occupée, mais la propagande, notamment, bon là je pense on reprend l'exemple de Cabordelais, c'est dans toute la ceinture ouvrière, de Bègue, autour de Senon, de Lormont, là où il y a pas mal d'entreprises, où on a une résistance de propagande qui va jouer un rôle très important, qui va être également victime d'une répression très importante. C'est eux notamment, on retrouvera pas seulement à Bordeaux, c'est le cas à Paris, c'est le cas à Nantes, qui vont alimenter les premières, première forme de répression allemande, des représailles massives des otages en octobre 1941 jusqu'en décembre 1941, où là on va pratiquement avoir 200 fusillés sur l'ensemble de la zone occupée. Ça, on est là sur une résistance en guerre urbaine. Alors, le monde rural à l'époque, il y a beaucoup moins d'activités de résistance, hormis la démarcation. Là, c'est vrai que c'est une activité qui a généré de la désobéissance, qui a généré des formes d'opposition. Donc voilà pour un petit peu globaliser très rapidement. À partir de 1942-1943, l'objectif devient différent, parce que désormais, c'est d'essayer de mettre fin, à la présence de l'occupant sur le territoire. Et donc là, il va falloir s'armer, se militariser. Or, forcément, on ne va pas faire des parachutages en pleine épidémie, ce n'est pas possible. On ne va pas pouvoir faire des regroupements d'hommes en pleine épidémie. Donc, là, la campagne va redevenir un pôle majeur de la résistance des bombardements. Enfin, toujours dans les villes occupées, dans les grandes villes, toujours le renseignement, toujours, je dirais, la propagande, mais désormais une activité plus militaire, et qui vont notamment régénérer là aussi des petits sabotages, des opérations importantes en ville comme en campagne d'ailleurs. Donc là, c'est le parachutage, c'est la formation des maquis, même si les maquis au départ, ce n'est pas la résistance, hein, c'est le refus au STO, et puis ensuite, à un moment donné, il va y avoir un choix, c'est elles en restent dans les forêts, et puis on attend, ou bien on va passer à l'acte résistant, c'est-à-dire on s'arme, et puis ensuite on se lance dans le combat. Voilà, donc un petit peu pour faire rapide, on va dire 42-43, c'est à ce moment-là où on a une limitation des objectifs de la résistance, et donc en voie de conséquence de l'espace. Et puis forcément, la ville reste quand même le poste de commandement, c'est quand même là l'objectif, puisque c'est là qu'il y a le plus de monde. C'est là aussi le mouvement en 44 va partir des campagnes pour aller libérer les grandes villes, notamment pour le sud-ouest de la France. Voilà.
Vous n'avez pas globalisé, donc je vous demande de globaliser encore. Une question bête, pourquoi est-ce qu'on désobéit? Et est-ce que c'est difficile? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde aurait désobéi, bien sûr, on serait tous des héros, c'est plus clair, mais à l'époque, c'était peut-être un peu plus...
Alors pourquoi? Ça, c'est la question, c'est la question la plus difficile, parce qu'on peut pratiquement envisager toutes les réponses. Pourquoi? Parce que, pour certains, c'est, comme je l'ai dit, on désobéit parce qu'on ne veut pas obéir, tout simplement. On veut respecter un ordre occupant. On sait très bien que lorsqu'on met une frontière, lorsqu'il y a une région frontalière, il y a toujours des mouvements de contrebande. Ça génère toujours des mouvements d'opposition.
La ligne de démarcation, vous disiez, a généré, donc c'est aussi ce
problème. A généré des mouvements d'opposition comme si on était, depuis des siècles, autour du Pays Basque, où la frontière a généré, a entraîné beaucoup de mouvements de contrebande, etc. Bon, ça c'est premier refus. Deuxième explication, ça s'appelle le défi. Parce que là, je pense qu'on fait un défi à l'OTAN. Ensuite, pourquoi? Tout simplement, il y a l'acte citoyen, il y a aussi la compassion.
La compassion.
Je pense que ça, c'est aussi un élément très important. On a parlé beaucoup aujourd'hui du sauvetage des Juifs. Pour prendre un exemple, au départ, le sauvetage des Juifs, c'est une démarcation. C'est l'homme chrétien qui voit quelqu'un en difficulté, qui va venir sauver. Ça, je crois que c'est une des formes. Déjà, on ne se demande pas pourquoi on le sauve. On le sauve, c'est naturel. Je crois que ça, c'est très important. À l'époque, on n'est pas en train de se demander bon, alors, est-ce que je vais résister contre les Allemands, etc. Ça, c'est un petit peu la grille qu'on trouve aujourd'hui, l'explication qu'on pourrait donner, mais qui est totalement fausse. À l'époque, c'est spontané, c'est un réflexe. Et ça, je crois que dans beaucoup de témoignages, ou dans beaucoup de témoignages, c'est ce que l'on voit. Ils disent « je n'étais pas résistant ». Ils n'ont pas conscience à l'époque de résister. Ils l'ont été ensuite, on leur a donné des décorations, des diplômes, etc. Même que beaucoup d'ailleurs ont pas eu, parce qu'ils ont trouvé ça, exagéré par rapport à ce qu'ils ont fait. Parce que pour eux, c'est un acte qui était tout à fait naturel. Ça, je crois que c'est la désobéissance pour eux est un acte naturel. Voilà pour, je dirais, pour le pourquoi. Et puis, ensuite, il y a aussi désobéir parce qu'on a les moyens d'apporter des éléments à la résistance. Soit par exemple, le cafetier, par exemple, le monsieur qui conduit dans les droits, par exemple, pour conduire les taxis, ils ont une occasion pour, par exemple, traverser la ligne de démarcation, parce qu'ils ont le moyen de le faire. Ça aussi, c'est un autre élément. Voilà pour la première question que vous avez posée, c'est-à-dire le pourquoi. Et la deuxième question,
Est-ce que c'était difficile,
difficile, de
passer à l'acte ou quels étaient les barrages, soit les représentations mentales, d'ailleurs on en a parlé tout à l'heure, la loi, qu'est-ce qu'il fallait enfreindre, quoi.
Pour reprendre, celui qui désobéit, comme celui qui résiste finalement, là il rejette quelque chose, il rejette l'occupation, il rejette le régime de Vichy, et donc il faut se confronter au même danger. Beaucoup n'en avaient pas conscience au départ, mais ensuite ça le devient, parce que c'est l'arrestation, c'est l'internement. Alors bon, je dirais, tout est hiérarchisé. C'est assez d'ailleurs intéressant à voir. Quand on est arrêté par les Allemands, on n'est pas forcément, d'abord on n'est pas arrêté par la Gestapo, on est arrêté par les services de la Gestapo, c'est sur le 42, donc par l'armée, et puis tout ça c'est hiérarchisé par des tribunaux militaires. Moi, j'ai vu étudier les sanctions des tribunaux militaires de Bordeaux, donc le tribunal de la Gestapo, mais ce sont des sanctions qui vont, je ne sais pas, pour celui qui n'a pas par exemple bien calfeutré sa fenêtre, la lumière transparaît, et donc ça peut être un signe pour celui, pour des avions par exemple extérieurs, eh bien ça va être 5 de condamnation. Donc ça va aller à ceci, toute une réglementation, toute une hiérarchie dans les sanctions. C'est d'ailleurs quand on lit ça 70 ans après, on est très très surpris. 100 ans après, on est très très surpris de voir ce degré de précision dans les sanctions avant. Et après, bien évidemment, plus qu'on va arriver en 41, 42, les sanctions seront plus élevées, c'est l'internement, c'est l'internement des prisons, dans les camps, enfin, les prisons côté allemand. C'est pas forcément. Alors, par contre, celui qui est déjà dans le domaine de résistance organisée, alors, par exemple, il n'y a eu que deux passeurs en Gironde de la ligne de démarcation qui ont été fusillés en mars 1942, qui faisaient traverser la ligne de démarcation dans sa forme organisée. C'était une grande filière qui partait de Nantes, qui arrivait jusque dans les Basques-Évennes.
On continue de planter encore un peu le décor avant de parler d'Aristide Toussaint-Ménette. Philippe Soulo, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez changé, vous aviez travaillé avec vos confrères historiens et que la perception de la ligne de démarcation, son rôle, avait évolué sur ces 10 dernières années. Est-ce que vous avez un point de vue, est-ce que vous êtes historien bien sûr, sur la perception que l'on avait à l'époque de l'état de la situation? Est-ce qu'on savait ce qui se passait? Est-ce qu'on avait de l'information? Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez réfléchi là-dessus? Est-ce qu'on savait ce qui se passait vraiment? Tout ceci pour revenir à cette question de la désobéissance. Hein, est-ce qu'on était en mesure de se dire, oulala, ça ne va pas, donc je vais désobéir? Est-ce qu'on savait? Et qu'est-ce qu'on savait et qui savait quoi?
Forcément, aujourd'hui, nous sommes noyés sous la multiplication des formes d'information. Ce n'était absolument pas le cas pendant l'occupation, dans les années 40, quand c'est un environnement occupé. On est donc ici, tout à fait, sur un autre contexte. La connaissance du mouvement est quand même beaucoup moins claire qu'aujourd'hui. Il y a aussi la propagande qui joue un rôle essentiel, qui biaise finalement la situation. Prenons le cas, tous les journaux sont soumis à la censure, au contrôle de la censure, qu'on soit zone occupée, zone non occupée. Zone occupée, c'est la censure allemande. Côté zone non occupée, c'est la censure de Vichy. Donc il y a toute une série d'éléments qui ne transparaissent pas dans la presse ou dans la radio. Mais bon, il y a aussi une contre-propagande, donc qui peut permettre d'équilibrer cette contre-propagande, tout le monde n'y a pas accès. Également, on pourrait parler encore d'une autre question, c'est par exemple en 1942, que savait-on de la solution finale, voilà. Par exemple, alors là aussi, il y a plusieurs niveaux d'échelle qu'il faut prendre en considération. Je vous dirais, j'ai écouté tout simplement la semaine dernière un témoin qui disait, voilà, on savait en 42, en août 42, que les Juifs étaient arrêtés et qu'ils allaient être déportés, qu'ils allaient être gazés. Je trouvais qu'en août 1942, qu'un simple témoin puisse avouer ceci, c'est pas possible. C'est pas possible, vous n'avez pas les éléments. Vous n'avez pas les éléments. Par contre, on peut penser que si on les arrêtait, c'est qu'il allait quand même arriver derrière un certain nombre de choses. Quoi? Vous ne pouvez pas le savoir. Ensuite, les autorités. Alors, je pense que c'est surtout là où c'est intéressant. Aussi bien, on peut dire que la population moyenne, hein, dans son ensemble, n'était pas vraiment au courant de ce qui se passait. En revanche, les autorités officielles, les préfectures, l'étaient beaucoup plus. Ils savaient très bien où ils allaient. Ils ne savaient pas forcément ce qui allait se passer, mais ils avaient quand même une idée précise du mécanisme qui les attendait. Or, bon, on parle de la préfecture de la Gironde, le préfet en l'occurrence, savait très bien que les convois qui partaient de Bordeaux, qu'ils ne reviendraient pas. Hein. Il y avait quand même, on savait très bien.
Vous affirmez, historien, que le préfet de Gironde savait où il envoyait les gens à cette époque.
Attention, le préfet régional, pas le préfet de Gironde.
Oui,
le préfet de Gironde, c'est pas la même chose. Le préfet régional, c'est lui qui a. Par rapport aux ordonnances, le détachement de la hiérarchie de pouvoir, de hiérarchie de signature, c'est lui qui a l'autorité, lui, il sait. Ensuite, est-ce que les fonctionnaires plus classiques le savaient? Ça, c'est un autre problème. Le préfet régional, ses plus proches collaborateurs, oui, savaient au moins, plus ou moins, un certain nombre d'éléments. Ce n'était pas tout dans la confidence, mais ils savaient plus ou moins ce qu'il y avait. Je dirais, je passais des sages, ce sont des rapports qui sont très clairs là-dessus, quand on étudie tout simplement les grandes conférences des préfets à Vichy, Pierre Laval n'aura jamais caché la réalité. Bon, on ne parle pas de solution finale, on ne parle pas de gazage, ça, ils ne le savent pas, mais ils savent qu'ils vont dans des camps et que ces camps sont en Europe de l'Est. qui m'a protégé pas mal comme information.
Voilà quel mérite d'être clair, Philippe. Je pense que peut-être une réaction déjà ou non. Oui, madame.
Oui, il me semble qu'il y avait quand même des témoignages qui sortaient déjà des camps et des ghettos, du ghetto de Varsovie, etc. Des gens qui avaient réussi à transmettre.
Toujours est-il que la population, dans sa globalité, ne le savait pas. Hein, je dirais, les autorités, oui, mais pas la population.
Très parcellaire, une information très parcellaire.
Parce que, si on pourrait même rebondir sur ce que vous disiez, la résistance s'est occupée, on va dire, n'a pas eu conscience, je dirais, de ce qui se passait. Sur d'ailleurs toutes les catégories, hein, je dirais, de personnes qui partaient en Allemagne, hein, c'est-à-dire les juifs, les communistes, les résistants, ils l'ont su beaucoup plus tardivement. Parce que s'ils auraient eu conscience, on a souvent reproché à la résistance de ne pas avoir fait des portes, enfin de ne pas avoir fait dérailler les trains déportés, etc. etc. Parce qu'ils n'avaient pas la conscience de ce qui allait arriver derrière. Ils n'ont pas pris cette conscience-là. Ça, je crois que ça, c'est important à
préciser.
Voilà. Ils n'avaient pas l'information. Les autorités, c'est pas pareil. Effectivement, ils ont eu des sources d'informations qui leur a. Mais les autorités, c'est les autorités. Je voulais après. Ça, après, c'est une conscience. Vous avez des préfets régionaux. Bon. On reviendra pas sur après le caractère, sur le caractère à l'origine du régime de Vichy. C'est quand même un régime qui est antisémite, la violence est consubstantielle à ce régime, l'exclusion est consubstantielle au régime de Vichy. Ça veut dire que le maréchal Pétain et son entourage sont antisémites et pour eux c'est exclusion. L'exclusion des Juifs, des communistes, des francs-maçons, des étrangers. Dans leur globalité. Donc voilà, déjà, ça, on part traduit à l'origine. Ça, c'est important de le signaler. Ensuite, les préfets régionaux, bon, ben, eux, ils ont, ils n'adhèrent pas forcément à tous les éléments de la Révolution nationale. Ça, c'est connu aussi. Mais après, soit qu'ils restent en place, soit qu'ils sont remplacés, c'est quelqu'un d'autre qui arrive pour faire exécuter, tout simplement. Et qui. Un préfet régional va exécuter, un fonctionnaire va exécuter, forcément, sans forcer, froidement, il va exécuter froidement les ordres qui lui sont donnés, sans forcément réfléchir à la portée de ces actes. Je pense que le fonctionnaire a un rôle particulièrement important dans le mécanisme répressif pendant l'occupation.
Merci. Et pourtant, dès juin 40, hein, Manuel Diaz, Aristide Souza Mendes désobéit. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête?
Il désobéit à partir du 21 novembre 1939.
Ah, déjà.
Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Bon, d'abord, il est confronté en tant que chrétien, humaniste, à la problématique, effectivement, de la souffrance humaine. Il va agir en tant que chrétien humaniste, parce que cette souffrance-là, dont il est témoin, le dérange profondément. Il dit « Je suis agi en tant que chrétien humaniste, mais aussi en tant que père de famille. C'est ma qualité de père de famille qui va me faire prendre conscience que je n'ai pas le droit d'être indifférent à la souffrance humaine. » Mais il y a trois raisons qui vont expliquer pourquoi Aristide va agir aussitôt. La première, c'est que son frère jumeau, César, va être ambassadeur de Portugal à Berlin en 1934, 1935, 1936. Et Aristide va passer 6 mois avec son frère. Ils vont être tous les deux témoins de la naissance du nazisme, témoins physiques. Donc, deuxièmement, César, le frère d'Aristide, est l'ambassadeur de Portugal en Pologne. La tragédie de la Pologne, César va le vivre et la barbarie, la manière dont les Allemands se sont pratiqués en Pologne, César, qui est le frère d'Aristide et le neveu d'Aristide qui va passer à Bordeaux, est au courant de ça. Troisième élément, le 14 juin 1940, à la place des Quinconces, il va y avoir une rencontre qui va peser dans cette histoire. C'est la rencontre entre le rabbin Kluger et Aristide. Le rabbin Kluger est un rabbin polonais qui vient de Belgique et que lui aussi est au courant. Donc Aristide va avoir un faisceau d'éléments qui va lui faire prendre conscience qu'un drame est en train de se jouer et qu'il ne faut pas attendre la tragédie avant d'agir. Donc l'action d'Aristide est dans ce domaine-là exemplaire pour trois raisons. D'abord parce qu'il agit par anticipation. Donc il n'attend pas 42, 43, et en disant ça, je ne veux pas du tout diminuer la valeur et la noblesse des gens qui ont agi en 42, 43, 44. Ne me faites pas dire ce que je dis pas. Donc tous ceux qui ont agi en tant que justes, en tant que résistants, quel que soit leur moment d'action, méritent notre respect. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas d'Aristide, donc il agit par anticipation, il agit massivement. Il va sauver 30 000 personnes entre le 21 novembre 1939 et le 24 juin 1940. Et troisièmement, il va agir en désobéissant profondément à Salazar. Il va oser dire non, mais j'aurais tendance à dire en faisant un jeu de mots, Aristide n'a pas désobéi. Aristide a essentiellement obéi à sa conscience d'homme libre. Parce que quand on désobéit à des ordres racistes et inhumains, on obéit avant tout à sa conscience d'homme libre. Il ne faut pas inverser les rôles. Ce n'est pas parce que demain, un de nous, nous décidons de désobéir à une loi raciste que nous allons désobéir. Nous allons avant tout obéir à notre conscience d'homme libre et de citoyen responsable. Et c'est ça qui doit être la ligne de conduite. Nous ne sommes pas des robots ni des machines. Nous sommes et nous devons être. Et c'est ça qui va créer l'humanité. Parce que les fonctionnaires ne sont unis et les entrepreneurs et tous ces gens-là qui agissent dans le système. S'il n'y a plus d'humanité, où est le monde ? Si nous sommes uniquement des fonctions, où est l'humanité ? Moi, je ne veux pas de cette société-là. Et c'est à ça qu'Aristide a dit non. A dit non au fait, moi je ne suis pas qu'un fonctionnaire. Je suis un chrétien et je suis un homme libre. Et à ce titre, je vais obéir à ma conscience. C'est ça qui est la fracture. Et à mon avis, ces êtres exemplaires, ils ont avant tout obéi à leur conscience. De Gaulle, en disant non à Pétain, a dit oui à sa conscience. Et ça s'est passé le même jour. Parce qu'Aristide, dans la nuit du 16 au 17 juin, quand il décide massivement de dire non à Salazar, c'est au même moment, à 800 mètres de différence, où De Gaulle dit non à Pétain.
Exactement.
Ça se passe dans la même ville. Un, c'est rue Vital-Carle, l'autre, c'est à côté de la place des Quinconces. C'est encore une fois un élément historique. C'est des faits historiques. Et ces deux hommes, je ne veux pas les comparer. Un, en disant non, part à Londres et le 18, il fait l'appel aux Français, qui est un acte fondateur de la résistance. L'autre, il dit non à Salazar, il va sauver 30 000 personnes dans notre région, à Bordeaux, Bayonne et Andailles. Tout en sachant que deux ans plus tard, un autre fonctionnaire de l'État, et je suis d'accord avec Philippe, qui avait les éléments, pas tous les éléments, mais qui avait des éléments, lui va décider d'obéir, il va envoyer des tas de convois vers Nancy et de là vers les camps de la mort. C'est ça la vérité historique. Donc, moi je pense, par rapport à cette problématique, désobéir ou obéir, moi ce qui me semble fondamental dans les actes qui sont posés par des hommes libres ou des femmes, c'est que ces hommes et ces femmes ont avant tout décidé d'obéir à leur conscience et pas obéir à des ordres racistes, inhumains et fascistes. Troisième élément dans ce contexte un peu de l'histoire par rapport à cette problématique, c'est également comprendre à notre niveau que en agissant ainsi, ces hommes et ces femmes vont être à l'écoute de la souffrance humaine. Ils ne vont pas être uniquement à l'écoute du règlement. Aristide va être profondément sensible à la souffrance humaine. Et donc, ce qui va le toucher le plus profondément, et tout ce qu'il va argumenter pour sa défense, il va dire, moi j'avais en face de moi de la souffrance humaine, et je ne pouvais pas, moi, ne pas être sensible à ça. Parce que ne pas être sensible à ça, c'est à quelque part se désincarner. Moi, je n'étais pas qu'un numéro. Je n'étais pas que le consul général de Portugal, j'étais aussi un chrétien responsable. Et donc, je pense que c'est ça qui est important. C'est important en 1940, mais c'est important aujourd'hui et demain. Parce que nous tous, peut-être avec moins de gravité, nous sommes interrogés là-dessus. Où est l'essentiel? Où est l'essentiel? Et est-ce que toutes les lois, tous les règlements sont dignes d'application? Moi, je dis non. Et en disant non, ça, je ne veux pas être rentré dans une logique de désobéissance systématique. Je dis ça, il faut que chacun d'entre nous, nous puissions avoir l'esprit critique, parce que c'est ça qui donne du sens, et c'est ça qui donne ce que j'appellerais de l'humanité à notre société. Parce que s'il n'y a plus ça entre nous, il n'y a plus d'humanité. Il n'y a que des règlements, il n'y a que des lois, il n'y a que des fonctions. Et moi, je pense qu'au-dessus du règlement, des lois et des fonctions, il y a quelque chose qui est beaucoup plus suprême, c'est le respect de la vie, notre conscience et notre esprit critique. Alors, je voulais dire un mot par rapport à Philippe. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit par Philippe, avec une nuance. Moi, ceux qui ont fait de l'accommodement, ceux qui ont décidé à un moment donné de collaborer pour sauver leur entreprise, pour sauver leurs intérêts, excuse-moi Philippe, c'est pas ce que tu as dit.
Mais non, je c'est dis, pas tout à fait ça.
Non, c'est pas ce que tu as dit. Mais il ne faut pas que ce soit compris comme ça. Moi, tous ceux qui ont décidé de se faire doubler, de profiter de cette période-là, il y en a eu des milliers, pour moi, ils ont été des collabos. Point à la ligne. Ça dérange ou pas, je le dis et j'assume complètement.
Compliqué après.
Bon, oui, c'est compliqué après. Oui. Intervenir après, donc je vais essayer d'être désagréable. Je pense y arriver parce que bon, c'est bien gentil tout ça, Manuel. Non, il obéit à sa conscience d'omnivore. Moi, j'en ai un à la maison. S'il obéit à sa conscience d'omnivore, il fait rien. Vous êtes prof en sciences de l'éducation, je crois. Désobéir. Attends, allez, je vais parler poliment. C'est le bordel si tout le monde en fait selon sa conscience d'omnivore. C'est
moi,
quoi, la conscience d'omnivore. Attendez, il faut bien qu'il y ait une loi quand même, non?
Oui, mais une loi.
Eh ben alors,
une loi. Non, mais je ne suis pas contre la loi.
Ah.
Mais il y a des lois.
Ça,
mais la loi sacrée, c'est pas la loi des hommes,
mais
c'est la loi de notre conscience.
Dit, on savait pas,
j'ai eu en tant que prof d'université, j'ai été confronté à ça. Moi, j'ai été fonctionnaire à la préfecture de région d'Aquitaine pendant 22 ans. J'ai été confronté à 4 ou 5 reprises dans ma vie à des problèmes de conscience. Et je n'ai pas toujours été à la hauteur. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Moi, il m'est arrivé à quelques kilomètres d'ici, à Agen, d'assister à un discours d'un préfet raciste devant moi, et j'ai encaissé, et je n'ai pas eu le courage de lui dire non, et je suis sorti de la réunion, et je suis allé vomir. J'aime autant vous dire que je n'étais pas fier de mon attitude de lâche. C'est-à-dire que résister demande un courage extraordinaire. Résister à l'autorité, moi, ça m'est arrivé deux fois. Ça m'est arrivé une fois ici à Agen, en 89, face à un préfet, je ne vais pas dire son nom, par charité chrétienne. Et cet homme s'est permis de dire des choses. Devant moi, on était une trentaine de hauts fonctionnaires qui étaient passibles des tribunaux. Parce que cet homme était en train d'affirmer, en tant que représentant de l'État, quelque chose qui était contraire aux valeurs de la République. Donc, moi, je n'ai pas trouvé le courage, ces jours-là, de lui dire en tant qu'homme libre, j'ai été lâche. Je l'ai fait trois ans plus tard, je l'ai fait à Bayonne, devant un sous-préfet. Je lui dis ce que je pensais. Ce mec-là m'a foutu dehors et m'a dit, monsieur Diaz, vous fermez votre grande gueule, ici je suis le patron, et pendant 2 ans et demi, je n'ai pas eu le droit de mettre les pieds à la sous-préfecture de Bayonne. C'est ça le rapport de force. Donc, c'est-à-dire désobéir à des discours racistes, de désobéir à des lois racistes, ce n'est pas simple.
Et puis là,
à Bordeaux en ce moment, il y a des...
Excusez-moi, pardon.
Je vous en prie.
Excusez-moi, mais monsieur Manuel Diaz ne remet pas encore en cause l'esprit de la loi.
Non.
Il parle du respect de la loi, de ses valeurs, mm-hmm. mais il ne remet pas en cause l'esprit de la loi. Il remet en cause des lois. Ce que vous dites, vous...
Moi, c'est rien, je pose des questions, je vous
rassure. Non, mais ce que vous avez dit, c'est comme si vous remettez... Vous disiez qu'il remettait en cause l'esprit de la loi, pas du tout. Au contraire, il la réaffirme. Il réaffirme l'esprit de la loi, mais l'esprit de la loi lui-même affirme qu'il faut savoir désobéir à certaines lois.
D'accord. Donc, un fonctionnaire de police aujourd'hui qui à Bordeaux va interpeller une famille de Roms, tiens, au hasard, qui n'ont pas le droit de séjourner en France parce qu'ils n'ont pas de titre de séjour, il faudrait qu'ils désobéissent.
C'est l'opposition entre la légalité et la légitimité. La légalité de la loi et sa légitimité. Mmh. C'est tout.
Vous pouvez développer, monsieur.
Bon, la légalité, c'est la loi telle qu'elle est. La légitimité, c'est la trouve-t-on légitime, c'est-à-dire par rapport à sa conscience. Et forcément, ça c'est un grand débat. Le grand débat depuis très longtemps. On a une loi. Donc, si on la respecte, on est légal. Si on ne la respecte pas, et le policier a le droit de s'y opposer, en arguant, en plus, il y a
tout
un arsenal juridique. Et là, c'est ça.
Il pourrait refuser. Il pourrait refuser.
Oui, tout à fait.
Oui. Nous, c'est un petit peu le débat entre légalité et légitimité. C'est un débat très difficile.
Ça ne doit pas dire.
Dans un rapport de force, la raison n'est pas du côté de l'exécutant. La raison est souvent du côté du puissant. Par contre, il faut que nous, en tant qu'acteurs, que ce soit le policier, que ce soit le fonctionnaire de la réglementation, que ce soit ceci ou cela, nous ne pouvons pas en permanence, et moi je le dis, et madame a raison, moi je défends l'esprit de la loi. Je ne suis pas contre la loi. Je suis contre les lois racistes et inhumaines, parce que ces lois racistes et inhumaines sont indignes du pacte républicain qui fonde notre vivre ensemble. Tous ceux qui se permettent de mettre ça en cause, putain, mais c'est notre droit de lutter contre ça. C'est ça, la démocratie. La démocratie, ce n'est rien d'autre que le peuple ne peut pas être dépossédé de son pouvoir d'intervention. Parce que le jour où il n'y a plus cette parole citoyenne, il n'y a plus de démocratie. Il n'y a plus que des appareils qui nous dominent, qui nous instrumentalisent et qui nous dominent. Et donc, moi, je ne veux pas de ça. Après, je comprends parfaitement. Quand j'étais fonctionnaire, je ne pouvais pas me permettre ce type de discours. Sinon, je me serais fait virer immédiatement. Par contre, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose tous. Et je pense que si on veut avoir une société libre et démocratique, il faut que les citoyens gardent l'esprit critique et notre capacité de réfléchir, et pas uniquement d'être des robots en temps d'appliquer des règlements à la con, parce que la plupart du temps c'est des règlements à la con, dirigés par des gens qui n'ont aucune conscience de la portée qu'ils ont. Parce que la plupart du temps, moi j'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans un cabinet ministériel, la plupart du temps ceux qui conçoivent les lois, ils sont à 1 000 lieues de savoir l'impact de ces lois sur nos concitoyens. Donc soyons capables au moins d'avoir cet esprit critique. Et ce n'est pas être contre la loi, c'est être des êtres responsables.
Mais bon, si on décide qu'il faut un titre de séjour pour rester en France et qu'on n'a pas ce titre de séjour... Il faut bien que quelqu'un s'occupe des gens qui n'ont pas de titre de séjour. Il faut bien des conditions pour rester dans un pays, non ?
Oui.
Oui. Bon. Non, mais on peut aussi appliquer des lois avec un certain humanisme. Mais il y a un autre témoin.
Bon, il y a un autre témoin, Émile Veil. Mais non, mais je l'ai gardé pour la fin, Émile Veil, parce que il nous a parlé de la guerre heureuse. Et ce matin, ceux qui avaient la chance de l'entendre. Oui, peut-être que vous vouliez dire quelque chose.
Ben oui, que ça n'a rien à voir le parallèle avec les Roms. Ils ne sont pas envoyés dans des camps de concentration. Ils sont pas, effectivement, ils sont en situation illégale et on leur demande à ce qu'ils retournent, mais ils ne sont pas envoyés dans des camps de la mort, quand même.
Je ne faisais pas de parallèle.
Je
parlais simplement de la.
Mais on l'a entendu pendant cette période-là, ces parallèles, sous prétexte qu'effectivement, il y a un schéma, là, un flash, qu'à un moment donné, il y a la police qui vient chercher des gens. Et on a fait le parallèle, mais ça n'a rien à voir.
Je posais la question en aval, quand même, par rapport à l'attitude d'un fonctionnaire. C'était ça. Et de la loi, bien évidemment. Ça n'est pas de mon ressort de comparer quoi que ce soit. On a un historien, et ce n'était pas le sujet de ma question.
C'est bien.
Émile.
Bon, pour éviter.
Un peu de sourire quand même.
Pour éviter tout
équivoque. Vous ne pouvez pas nous raconter votre histoire de la bourse au collège d'Agen, ceux qui n'étaient pas là ce matin, puis même ceux qui étaient là ce matin, elle est trop bonne, donc il faut le raconter.
Pour éviter, disons, toute équivoque, je ne suis pas d'accord avec le mot témoin sauvé, parce que je n'ai jamais été en danger. Mais j'accepte volontiers témoin protégé. Ah. Hein, parce qu'on a vraiment été protégé pendant cette période, comme je l'ai déjà évoqué ce matin. Alors, si vous voulez, je vais essayer de vous raconter un peu l'histoire de notre famille pendant la guerre. Et vous verrez par là que, je ne sais pas si c'est par intuition, si c'est par chance, je ne sais pas pourquoi, mais on a, disons, su éviter tous les dangers, tous les problèmes que beaucoup de nos co-religionnaires, concitoyens ont connu. Alors, le 30 août 1939, j'habitais un petit patelin qui s'appelait le Benfeld, au sud de Strasbourg. Il y a eu la mobilisation générale en France, et notre village, qui était situé à 10 km du Rhin, n'était pas vraiment concerné par cette mobilisation générale. Mais ma mère avait un frère, notre oncle, qui avait 17 ans de plus qu'elle, qui était pour nous un peu un grand-père, qui a été, sollicité par une de ses voisines, qui était enceinte, qui habitait Strasbourg, qui lui a dit, Monsieur Gross, il s'appelait Gross, mon oncle, je ne voudrais pas partir dans la région de Périgueux, dans les wagons à bestiaux avec tous les Alsaciens, enfin tous les Strasbourgeois. Par contre, j'ai la famille qui est prête à me recevoir dans le territoire de Belfort. Est-ce que vous voudriez bien me conduire là-bas ? Mon oncle, qui aimait beaucoup rendre service à tout le monde, a dit « Ok, je vous conduis, il n'y a pas de problème ». Et pour aller, disons, dans le territoire de Belfort, il passait automatiquement par Benfeld, là où nous habitions, et il s'est dit ben, « Dans le fond, je pourrais aussi demander à ma sœur et à ses enfants de venir avec moi et d'aller du côté de Nancy chez une cousine qui avait une grande propriété qui pouvait nous recevoir parce qu'on ne savait pas du tout comment cette guerre, si cette guerre aurait lieu et comment elle allait débuter. Il s'arrête, il en discute avec mon père et ils sont d'accord. Donc on part la fleur au fusil, si on peut dire, en vacances à Rosières-aux-Salines près de Nancy. On passe là-bas une année. Enfin pas tout à fait une année, mais on passe là-bas très bien avec, disons, cette cousine qui, elle, avait connu la guerre 14-18 à Nancy avec deux jeunes enfants et qui disait toujours « je voudrais plus jamais revoir ça » parce que, vous savez, Verdun n'était pas très loin du front de Nancy, donc période pénible. Et elle avait un fils qui était officier, qui était, instructeur dans une unité militaire à Biscarros, dans les Landes. En décembre 39, elle est allée rendre visite à son fils et elle a été attirée par les belles villas qu'elle a vues à Biscarros, qui n'étaient pas occupées. Elle est de nouveau rentrée. Ensuite arrive mai 40, la débâcle, et cette cousine a eu l'idée de téléphoner à Biscarros pour louer une villa. Et nous avons quitté Nancy le 14 juin 1940, en pleine débâcle, mais alors que la plupart des gens ne savaient pas où ils allaient, ils partaient pour se sauver, nous, on savait déjà où on allait. Donc, premier avantage, on est allé à Biscarrosse. Et là, il s'est passé quelque chose d'absolument extraordinaire. 8 jours après la signature de l'armistice, cet oncle dont je vous ai parlé avant, qui se trouvait dans le sud-ouest pour des raisons professionnelles, a rencontré cette cousine et ils ont dit « il ne faut pas rester en zone occupée, c'est trop dangereux ». Alors que 8 jours après, personne ne savait ce qu'était zone libre, ce qu'était zone occupée. Et cette cousine avait 4 garçons qui étaient militaires, dont elle n'avait aucune nouvelle, elle ne savait pas s'ils étaient morts, prisonniers, blessés, avait lu dans le journal que la 20e région militaire, la région militaire de Nancy, serait démobilisée à Villeneuve-sur-Lot. Donc elle a dit à mon oncle, ben écoute, ça serait bien qu'on aille à Villeneuve-sur-Lot, comme ça je pourrais essayer d'avoir des nouvelles de mes garçons. Et c'est comme ça que nous avons débarqué, si on peut dire, enfin 8 jours après, que nous sommes allés à Villeneuve-sur-Lot, où nous avons passé toute la guerre. Ça a été, disons, le premier départ. Ensuite, mon père, qui n'était pas venu avec nous au moment de la débâcle, nous a rejoints à Villeneuve-sur-Lot. Et à Villeneuve-sur-Lot sont aussi arrivés en décembre 40 des chrétiens alsaciens qui avaient été expulsés par les Allemands parce qu'il y avait un profil qui ne convenait pas, disons, aux nazis. Et entre autres, il y avait quelqu'un dont vous avez peut-être entendu parler, c'était l'abbé Bourgeois, qui était un curé alsacien, donc, qui avait également été expulsé. Donc, mon père, qui était né en 1888 en Alsace allemande, parlait assez mal le français. Donc, avec les Alsaciens, vous savez qu'on a un dialecte en Alsace, donc il parlait le dialecte alsacien, donc très à l'aise. En 41, mon frère et moi, nous sommes entrés à l'école primaire, et en 41, nous sommes entrés au collège de Villeneuve-sur-Lot, dont le directeur était M. Léon Bourgeois, qui est un juste qui a été nommé par Yad Vashem, que j'ai fréquenté donc tous les jours, et si vous lisez mon livre, je parle 5 ou 6 fois de lui dans ce livre. C'est d'ailleurs lui qui m'a aussi fait ce que j'ai évoqué ce matin pour le concours de la bourse.
Voilà.
Donc nous étions à Villeneuve-sur-Lot, nous étions bien, nous avions un appartement correct. Mon oncle, dont j'ai parlé au début, son employeur était une grosse maison de textile de Paris, a ouvert une succursale à Castres, l'a nommé directeur à Castres, et disons, donc, nous n'avions pas de soucis matériels non plus. Nous n'avions pas de soucis matériels. Donc tout allait bien, et disons, si la première étape a été l'invasion de la Russie par l'Allemagne. Quand Hitler a attaqué la Russie, mon père a... Non, le premier, ça a été le serment de Koufra, excusez-moi. Le premier acte militaire, ça a été le serment de Koufra. Alors quand Leclerc a dit « Nous arrêterons pas avant la libération de Strasbourg », pour nous, surtout jeunes, 10-11 ans, ça voulait dire que la victoire était au bout du... Au bout du combat, il y aura la victoire. Deuxième, ça a été l'attaque d'Hitler sur la Russie. À ce moment-là, mon père, qui était soldat allemand en 1914, était sur le front russe, avait déserté et avait été rapatrié par les Russes en France. Il y a pas mal d'Alsaciens qui avaient déserté et qui ont été rapatriés en France et qui donc étaient militaires français. Donc, il prétendait connaître un peu la Russie. Il a dit, les Russes, ils peuvent reculer jusqu'à Vladivostok. Il n'y a pas de problème. Les Allemands ne gagneront jamais la guerre contre les Russes. Ça a été le deuxième point. Et donc, tout allait bien. On écoutait les nouvelles. Hein. Il n'y avait pas de problème. On n'a connu aucune difficulté, aucun problème. En plus, il y avait du côté de Villeneuve-sur-Lot des fermiers suisses allemands qui étaient venus dans la région dans les années 30. qui s'était installé dans des fermes et qui était content de rencontrer les Alsaciens parce qu'il y avait une certaine accointance avec eux. Donc cela nous assurait le ravitaillement sans aucun problème. Et avec les expulsés alsaciens, est également arrivé à Villeneuve-sur-Lot un boucher alsacien qui a ouvert une fabrique de charcuterie à Villeneuve-sur-Lot et qui, à ce moment-là, eh ben, il nous donnait, disons, ce qu'il nous fallait pour manger. Enfin, il nous vendait, mais à un prix tout à fait normal, quoi. Ensuite, une deuxième étape, ça a été l'entrée en guerre des États-Unis, mais ça a aussi été l'occupation de la zone libre par les Allemands. Et disons, à ce moment-là, l'employeur de mon oncle, ce monsieur de Paris, est venu voir mon oncle à Paris, à Castres, et lui a dit, écoutez, monsieur Gross, je sais tout ce qui se passe avec les Juifs à Paris, c'est beaucoup trop dangereux pour que je vous garde ici en tant que directeur de cette entreprise. Allez rejoindre votre famille à Villeneuve-sur-Lot, et moi je continue à vous payer comme si vous travailliez. Donc, là aussi, disons, pas de problème, pas de souci. Donc, mon oncle est venu chez nous à Villeneuve-sur-Lot. Tout s'est bien passé. En classe, tout marchait bien. Monsieur Bourgeois, j'étais assis à côté de fils de miliciens. Mais j'ai jamais eu aucune, disons, provocation, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, s'il y avait eu quoi que ce soit, Monsieur Bourgeois l'aurait foutu dehors, hein. Même si c'était le fils du milicien, ça, il n'en avait rien à cirer, si on peut dire. Ensuite, donc, j'ai passé cet examen de la bourse que j'ai évoqué ce matin. Et, si vous voulez, donc, on était bien. On était bien, on n'avait aucun problème. On habitait dans un immeuble de 2 étages. Mon oncle, qui était sans doute un peu sourd, écoutait Radio Londres tellement fort que les voisins du premier étage, quand il descendait des escaliers, il disait « Quelles sont les nouvelles ce matin ?» Vous voyez, on ne se rendait pas compte du danger, disons, de ce qui aurait pu nous arriver. Donc, tout allait bien. Ensuite, disons, il y a eu le débarquement en Italie. Là, on a été un peu déçus, si vous voulez. On attendait le débarquement en France. Mais enfin, bon, il fallait s'y faire. Et on attendait donc, disons, la situation militaire. Oui, je me rappelle qu'on a bu le champagne pour Stalingrad. Hein. Ça, c'était bien. Donc, après, on fêtait les victoires, chaque victoire, avec tous les Alsaciens. On se retrouvait une dizaine, une quinzaine d'Alsaciens. Et puis, allez, à la prochaine victoire. Et donc... On attendait le débarquement. En tant que juif, on n'a jamais connu de danger. Hein, on avait été déclaré à la mairie de Villeneuve-sur-Lot, comme il fallait se déclarer. Mais, disons, après, on avait de faux papiers, mais qu'on n'a jamais utilisés. On n'a pas connu de problème. Alors, le seul problème qu'on a connu, c'est au mois de juin 1944, quand il y a eu le débarquement allié, il y a des militaires allemands qui sont venus, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de militaires allemands à Villeneuve-sur-Lot. Hein. De temps en temps, on voyait une voiture ou deux, mais pas beaucoup de militaires. Et fin juin 1944, il y a une grosse, disons, on va dire une division, mais disons un gros régiment allemand qui s'est installé à Villeneuve-sur-Lot. Comme je parlais couramment l'allemand, je leur parlais. Ouais, ils étaient sympas. C'était des Autrichiens qui n'avaient qu'un souci, c'était de rentrer chez eux. Et disons, ils ont quitté Villeneuve-sur-Lot aux environs du 20 juillet 1944. Et à ce moment-là, Villeneuve-sur-Lot s'est, disons, auto-libéré. C'est auto-libéré. C'est milice patriotique, les maquisards qui ont pris possession de la ville. Moi, je suis entré aux milices patriotiques. Et je faisais j'accompagnais le camion qui faisait le ramassage de lait. Voilà, donc si vous voulez, ça, hein, tout ça, ça se faisait tout naturellement. Je vous dirais aussi qu'on était chez nos amis qui s'appelaient Lasserre à l'époque, le 5 juin au soir, et leur fils est arrivé et nous a dit « Bon, le débarquement, c'est pour demain matin ». parce que le message c'était « Vive les heures de vacances », qui voulait dire que le débarquement aurait lieu le lendemain matin. J'avais des cousins qui avaient une ferme à Montpazier en Dordogne. Donc eux, ils nous apportaient des truffes, parce qu'ils avaient beaucoup de truffes qui cultivaient dans leur terre. Alors, vous voyez, je peux vous raconter, disons, un tas de choses sur notre guerre. Et, disons, ensuite, la véritable épreuve. Quelle a été la véritable épreuve? Pour nous, les jeunes, la véritable épreuve, ça a été de quitter Villeneuve et d'aller en Alsace. Vous voyez, c'était pas un retour pour nous, c'était un départ. On a vécu quand même pendant 5 ans, de 10 à 15 ans, dans cette région. Pour nos parents, c'était différent. Mais pour nous, ça a été une épreuve. Et donc voilà, un peu en quelques minutes, je vous raconte ça, mais je pourrais vous en parler pendant des heures.
Voilà.
Donc, à la demande de mes enfants, si vous voulez, j'ai écrit un livre qui raconte vraiment notre vie au jour le jour pendant la guerre.
Pardon, vous n'avez jamais porté l'étoile?
Ah ben, en zone libre, il n'y avait pas d'obligation.
Mais quand il y a eu... Parce
que,
après, toute la France...
Ah non, oui, mais on était quand même zone libre, vous voyez, enfin... Non, mais par rapport aux lois de Vichy...
Ouais, vous avez oublié la mer, c'est ça.
Oui, non, mais...
Par rapport aux lois de Vichy.
Parce que là, même à Marseille...
Oui, d'ailleurs... Oui, parce que Marseille, c'est une zone occupée italienne, non? Oui, vous voyez, mais enfin, nous, on a eu une question de ce côté-là... Problème. Et d'ailleurs, si vous lisez le livre de M. Doulu, vous savez, sur les déportés juifs du Lot-et-Garonne, j'ai quand même vu dans ce livre, donc il y a eu environ 500 juifs qui ont été déportés dans le Lot-et-Garonne, 480. Et là, ce livre, il n'y a eu que, si on peut employer cette expression, 28 juifs français, vous voyez. On ne se considérait jamais en danger, on était français, on ne se considérait jamais en danger. Mon père avait une carte d'ancien combattant, vous voyez, enfin, je veux dire, donc...
On pourrait prendre la succession.
Oui, non, c'est pour ça que, disons, c'est... Et là, je ne raconte rien, si ce n'est quelques petites choses, mais je ne raconte rien qui ne soit pas authentique.
Quoi. Absolument, oui.
Tout est vraiment authentique.
Merci, Émile Veil. Allez, Régine Poveda, Madame le maire. Vous sentez que cela n'aurait pas été possible. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Un petit mot quand même pour finir, et puis avec toutes vos équipes.
Bien, c'était un petit mot pour vous remercier particulièrement M. Diaz et Hélène et Bernard. Vraiment, merci du fond du cœur. Je crois que cette journée est importante pour nous et pour toutes celles et ceux qui ont participé. Je remercie M. Dumont de passer la journée avec
vous. Dimanche, la campagne.
Voilà. Merci aux intervenants aussi. Parce que je crois que c'était de qualité. Tout simplement merci, et puis on va retravailler, continuer à travailler pour que la culture continue à se développer et à la partager tous ensemble dans le milieu rural. Voilà, parce que je crois que c'est important que cette culture continue à être portée, parce que c'est pas évident.
Et pourquoi c'est important, oui?
Dans les grandes villes, c'est facile. C'est beaucoup plus facile, oui. Mais on est obstiné. Je crois que ce chemin, on a montré, on va continuer à développer des actions culturelles et puis cette mémoire aussi, continuer à la porter.
Merci. En fait, depuis tout à l'heure, vous avez dit, en reprenant Manuel Diaz, mais conscience d'homme libre, alors on pourrait faire ce qu'on veut. Mais justement, là, vous mettez un point important sur ce qui se passe, c'est-à-dire que pour avoir une conscience d'homme libre, ça demande un travail interne, externe, relationnel, énorme.
Éducatif.
Et que ce n'est pas à la portée de chacun, ni même tous les jours. Il y a des jours où on est absolument abruti, et il y a des jours où on devient intelligent. Et ce n'est pas grâce à soi, c'est grâce à ça. Et donc c'est en ce nom, au nom de cette culture qui peut féconder une terre féconde, justement, et pas stérile, que c'est important d'avoir ces manifestations et ces journées qui fédèrent un mouvement de pensée. Voilà. Merci.
Bien sûr, on n'allait pas se quitter sans remercier la présence de Mme Barras.
Ah non, je ne veux pas.
Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des mots importants qu'il faut savoir dire, et même si c'est difficile parfois.
C'est trop injuste.
Merci, et puis permettez-moi, je vous aime.
Ah, voilà.
On a prévu un petit
encas. Vous voyez, c'est pas un peu les gendarmes vont désobéir ce soir.